Merci. Je vais lancer un petit préambule pour présenter la Fédération des associations des métiers du scénario, comme on l'appelle affectueusement la FAB, et qui propose des actions culturelles, notamment des tables rondes et des publications, je vais y revenir. Alors, la Fédération, la FAB, je vais abréger, c'est en fait une association de plusieurs associations professionnelles de scénaristes, auteurs, réalisateurs, producteurs, et émergents, et lecteurs, et consultants. Ça a commencé avec 5 associations, et maintenant nous en sommes arrivés à 15, je crois, avec le BAR qui nous a rejoint récemment. Alors, vous avez un site internet avec tous les détails bien mieux présentés que ma petite présentation orale. Je vous invite évidemment à aller explorer tout ça. La PAMS s'est créée en 2020 au Festival Paris Cours de Vent. Nous avons le plaisir de retourner chaque année. Également, on est réinvité chaque année depuis par La Rochelle pour proposer une table ronde sur un thème libre. Donc, on remercie chaleureusement le Festival de La Rochelle pour cette nouvelle invitation. Aujourd'hui, on va donc parler de transmission et d'éducation. Enfin, d'enseignement du scénario, plus précisément. Ça tombe bien, puisque comme vous l'avez entendu, la cérémonie hier, c'est un thème important en ce moment. Donc, la fédération, l'idée, c'était de proposer à des associations ancrées dans des territoires différents. Il y a 15 associations, il n'y en a que 3 qui sont en Île-de-France, toutes les autres viennent de régions différentes, avec des missions et des statuts différents, et ce sont des associations qui ne se connaissaient pas forcément bien et qui, par la fédération, peuvent avoir un dialogue plus nourri, peuvent se réunir autour de thématiques ou éventuellement de revendications, et peuvent participer à des discussions sur des sujets importants autour des métiers du scénario. Alors, métier du scénario, ça n'implique pas seulement les scénaristes. Comme je le disais, c'est les auteurs-réalisateurs, les assistants, prod, les directeurs littéraires, les lecteurs, les consultants, etc. Je vous laisse compléter. Et parmi nos différentes actions, donc on fait surtout des actions culturelles, on a proposé plusieurs tables rondes, dont celle d'aujourd'hui. Et vous pouvez retrouver toujours sur le site internet quelques publications. On a proposé des livres blancs sur des thématiques variées. On a proposé un livre blanc sur l'harmonisation des dossiers. En gros, quand vous êtes scénariste, vous faites des dossiers, vous demandez d'argent, de financement, de résidence, et on vous demande souvent de refaire des dossiers avec des formats différents. C'est très agaçant, c'est une perte de temps totale. On a fait un livre blanc pour proposer l'harmonisation de tout cela, pour que les scénaristes arrêtent de perdre leur temps. On a fait un autre livre blanc sur le métier de consultant et de consultante, un métier encore méconnu. Et on sort actuellement, je vais laisser Alban vous en dire plus, on sort actuellement en plusieurs parties un livre blanc sur les questionnements autour de l'éducation, de l'enseignement, de la pratique, de l'écriture du scénario. On va justement en parler aujourd'hui. Dans les brochures également, plus accès grand public, on a proposé, vous pouvez les télécharger en PDF sur le site, et j'en ai quelques-unes en rab ici, en papier, si vous voulez vous servir à la fin, des brochures sur les vrais faux des scénaristes, le vrai faux des producteurs, productrices et le vrai faux des réalisateurs, réalisatrices, dans l'idée aussi de présenter au mieux les idées reçues, préconçues sur ces métiers pour permettre éventuellement à des émergents ou des jeunes en formation, voire des lycéens, de mieux comprendre un peu ce qui les attendait dans la jungle de ces métiers particuliers. Voilà, tout ça sur lafams.fr. Moi, je suis Rémi Rollo, je suis président de Backstory Association, qui est une des associations membres. Je suis scénariste, réalisateur et également enseignant, notamment en 3DS. Et je passe la parole à mon camarade Alban Alassar.
Bonjour, donc moi je suis Alban Alassar, je suis auteur, réalisateur, cofondateur de la FAMS. Donc je vais revenir juste sur les livres blancs dont parlait Rémi, ce sont en fait des livres blancs de recommandation. Il faut entendre par là des documents qui visent à ouvrir des chantiers de réflexion. Ce n'est pas des documents qui disent voilà, il faut faire comme ça, mais c'est plutôt des documents qui viennent faire des constats sur des sujets et qui ouvrent des débats. Des pistes de réflexion, des chantiers de travail avec les institutions, les pouvoirs publics, avec vous aussi, voilà, autour de retours d'expérience que l'on a pu vivre à travers nos associations. Et en fait, dernièrement, on sentait une émulation autour de la question de la formation des scénaristes. On voit beaucoup naître encore de plus en plus de formations, il y en avait déjà, mais on sent que ça devient un sujet qui est très prégnant. Et on avait envie, en tant que formateur nous-mêmes, d'en parler. de manière plus détaillée. Donc on a dégagé trois axes en fait, qui sont la méthodologie, le style et le métier. Donc il y a un premier volet qui est sorti il y a quelques mois, en juin, qui est écrit par Rémi sur la méthodologie, donc il revient un peu sur les grands axes méthodologiques de l'apprentissage du scénario, enfin, de l'écriture de scénario. Aujourd'hui, à cet instant même, il y a peut-être une demi-heure, on vient mettre en ligne le deuxième volet que j'ai rédigé qui est sur le style. Alors, le style, c'est quelque chose d'assez immatériel, assez difficile à définir. C'est comment est-ce qu'on trouve son identité d'auteur? Qu'est-ce qui fait qu'on a une unicité qui va faire qu'on va pouvoir se démarquer des autres scénaristes? Comment est-ce que ça se développe? Est-ce que ça se développe? Est-ce qu'on peut accompagner le développement? Voilà, je vous laisserai le lire. Donc, tout est disponible sur le centre de ressources de la fédération. Et aujourd'hui, et je vous dis donc le troisième volet métier qui arrive bientôt, qui est rédigé par Rémi Katz, notre collègue de backstory, qui se consacrera lui plutôt à l'étude de l'environnement professionnel des scénaristes et justement le manque de formation autour de ce qui attend les personnes qui sont formées au scénario dans leur introduction dans le métier. Voilà. Et pour aborder un petit peu ces trois volets de manière synthétique, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui trois intervenants que je vais laisser se présenter parce qu'ils me feront bien mieux que moi. Donc on commence à mon droite par Ludovic Duclary.
Bonjour à tous, Ludovic Duclary, Ludo Duclary pour ceux qui me connaissent bien. Je suis scénariste, plutôt cinéma. J'ai écrit un film qui s'appelle Paternel qui sort bientôt, en mars prochain, avec Grégory Gadebois et Géraldine Nakache. Voilà. Je travaille plutôt au cinéma, un petit peu dans la série télé aussi. Mais en parallèle de ça, je fais d'autres choses, comme beaucoup de scénaristes. Donc, je suis pas mal script d'auteur. Je vais notamment dans le Nord à Fixanovo régulièrement pour coacher et aider des jeunes auteurs de la région. Voilà. Et sinon, je suis formateur. J'ai un cours sur l'art et l'artisanat du scénario à Paris 3, à l'université, en master et en licence, master professionnel et licence professionnelle. Je fais partie de l'équipe qui a initié la Cité européenne des scénaristes. Je ne sais pas si vous connaissez. On a créé un centre d'apprentissage où on place des jeunes scénaristes au contact de scénaristes seniors pendant 5 mois dans une immersion pour travailler comme un apprenti avec son compagnon. Et dans ce cadre-là, moi, je coach, j'encadre une dizaine de jeunes apprentis. Je pourrais vous raconter après en détail ce qu'on fait. Voilà, et sinon, j'interviens dans différentes écoles quand on me demande. Je dis souvent oui, j'aime bien en fait. Là, on m'a demandé de faire quelque chose chez Dixit, sur comment vendre son scénario, donc je fais très matinée. On m'a demandé de faire ça dans l'école W, l'école journaliste, là je fais une semaine bientôt. Voilà, et sinon je fais aussi quelque chose que j'aime beaucoup et qui est un peu différent, mais le coach des militaires au ministère, dans le cadre de la mission cinéma du ministère. L'armée a à cœur de créer du lien entre les scénaristes qui écrivent des histoires et leur métier, et surtout amener le maximum de véracité dans les projets, et du coup, pour aider à créer ce lien entre scénaristes et militaires, on a créé avec la Cité et le ministère une formation de 2 jours, comment devenir consultant militaire sur un tournage. Et ça, j'aime beaucoup faire, ça change un peu d'avoir militaire, et puis il y a des généraux, il y a des gens très gradés, et on parle de scénario, et c'est assez marrant. Quoi. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je fais.
Christophe Lemoine, jeune scénariste. En fait, en âge de scénariste, je suis beaucoup plus jeune qu'en âge humain. En réalité, je suis scénariste depuis une douzaine d'années. Mais j'ai fait énormément de choses avant. J'ai été comédien, j'ai monté le théâtre, j'ai écrit pour la scène. J'ai été scénariste de bande dessinée, j'ai été auteur en littérature jeunesse. J'ai réalisé aussi quelques courts-métrages. C'est à l'occasion d'un moyen-métrage qui a un peu mieux marché, qui m'a amené voilà, progressivement vers l'écriture de scénario. Voilà, c'est important parce que justement la question du terrain et la multiplicité des expériences, surtout sur le terrain d'écriture, ça me semble quelque chose d'important justement dans les parcours d'écriture. Donc je suis scénariste. Comme j'ai commencé un peu tardivement, je me suis formé très 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 vite et j'ai mangé tout ce qui se présentait. Et assez rapidement, je me suis retrouvé à accompagner, consultant, donner des cours aussi. Enfin voilà, c'est pas quelque chose que j'ai choisi. Comme beaucoup de scénaristes, c'est un métier qui a une certaine précarité. le fait de donner des cours, par exemple, d'enseigner, c'est quelque chose qui peut aider. Je trouve que c'est une passion, voilà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'interviens dans des structures, alors, qui sont aussi bien des structures d'accompagnement, ateliers d'écriture, type le groupe Ouest, les talents en cinéma sur des longs métrages. Je donne aussi des cours, on va dire plus magistraux, plus classiques. J'interviens à la Sorbonne, au Open Master Scénario par exemple. Et là, plus précisément, c'est l'actualité ici à La Rochelle. Je suis co-responsable pédagogique d'une nouvelle structure qui s'appelle Nouvelles Écritures, que Sophie Mougin a conçue et qui en est à sa troisième promotion. Je vous invite, il y a une autre de pitching, on a dit qu'on avait le droit à la pub. Il y a une tournée de pitching vendredi, voilà, avec les auteurs de la promo 1 et promo 2, qui pitcheront certains de leurs projets. Je fais un petit peu très rapide sur Nouvelles Écritures. Nouvelles Écritures est une nouvelle école, donc il y a beaucoup de formations, on va sûrement en parler. La spécificité de Nouvelles Écritures, elle est davantage, je dirais, politique, sociétale, que pédagogique. La société française a la chance d'être multiple dans ses représentations. Malheureusement, dans les milieux de l'écriture, de la réalisation, cette multiplicité, je vais sortir le gros mot, cette diversité, cette mixité, elle est assez peu présente, c'est à peu près normal, puisqu'on va dire que pour écrire et réaliser, on en parlera peut-être aussi, c'est un peu plus simple quand on est issu de la moyenne ou de la bourgeoisie. Donc voilà, l'enjeu de Nouvelles Écritures est d'amener dans l'écriture de scénarios aujourd'hui, et spécifiquement dans cette époque, l'écriture de séries, de jeunes auteurs qui parlent leur parcours, leur culture, qui parlent voilà, leur expérience de vie, qu'ils représentent aussi, vont pouvoir apporter dans la fiction française d'aujourd'hui, voilà, cette représentation qui manque un petit peu.
Alors du coup moi je suis à côté de je suis scénariste depuis une quinzaine d'années on va dire, et mais une façon dans mon parcours c'est que la profession a toujours été quelque chose d'important et le collectif. Du coup il y a quelques années aussi avec Marie Sardane qui est dans cette salle, on a créé Marie Sardane Bargeux, on a créé l'Espace Bleu au Festival du scénariste de Valence. J'ai écrit un livre qui s'appelle Jeune scénariste, tout ce que tu dois savoir pour les éditions d'ici. Et j'ai été prof aussi à l'IFCA, à l'école de cinéma à Nancy. Et là, ce qui est difficile aussi, c'est que dans les formations, on vient créer une formation avec Paris Cours de Monde, le festival Paris Cours de Monde, où on intervient, il y a des gens qui sont dans cette salle qu'on a eu en formation. Et justement, dans l'idée de faire quelque chose de collectif et de différent. On a des formations, on n'a pas un seul formateur, mais on a trois formateurs pour 10 personnes. C'est pas pour faire de la pub, surtout c'est vraiment pour expliquer le truc. Et où on a décidé d'introduire trois personnalités différentes, un pré-doctor qui est vraiment sur la théorie, quelqu'un qui est plus sur la pratique, et un comédien très tôt dans la formation, pour que les scénaristes très tôt puissent rencontrer les gens qui vont être les premiers vecteurs de leur équipe, en gros, les comédiens. Et du coup, voilà, on met ce type de formation en place, on pourra en parler un peu plus tard, en discuter. On a, puisque là je vais prendre ça de on a une formation court-métrage où la limite à date est à la fin de la semaine, et une formation long-métrage où la limite à date est à la fin de la semaine prochaine avec une lecture des textes des stagiaires pendant le festival Paris Cours de Monde.
Voilà. Parfait, c'est bon aussi. Je vais commencer par une première question. Tu l'évoquais un peu, Christophe, sur cette idée de la vocation et des circonstances qui amènent à devenir scénariste, en fait, qui peuvent soit favoriser, soit freiner un parcours. Est-ce que ça vous parle, vous, cette notion de vocation à être scénariste? Qu'est-ce qui, pour vous, est le profil un peu type des personnes que vous recevez en formation, par exemple? Ou est-ce que, justement, il n'y a pas de profil type? Et dites-nous-en un peu plus.
La vocation, c'est quelque chose qui
m'a
rapproché de la partie artistique, vraiment, du scénario. C'est un des aspects du scénario. Moi, je considère ça quand même à la base vraiment comme un art, et pas que. Et quand même, cette partie artistique, vraiment, m'importe. Et donc, effectivement, on peut avoir une espèce de vocation à se dire je suis ma passion, et c'est ce que j'aime, j'ai envie de le faire. Quand on est là. Et souvent, c'est comme ça qu'on fait. C'est pour ça que moi, j'ai fait ça comme ça. J'ai commencé, moi, en voyant des films. Hein. En fait, quand on voit des films étant jeune, à 14-15 ans, on est très ému, et on se dit je veux faire la même chose. Et voilà. Et donc, moi, quelqu'un d'assez passionné, d'obsessionnel. Du coup, une fois que je me suis dit que je vais faire ça, je suis allé à fond. C'est ça que cette passion, cette énergie, c'est ça qui me tire en avant.
Et voilà. Et dans un deuxième temps, là, on va rentrer plus dans le métier. Et là, c'est le métier qui va prendre un peu le relais. Et là, on est plus sur un univers. C'est un art, mais c'est aussi un métier. C'est-à-dire qu'il y a des savoir-faire, il y a des manières de travailler, tout ça, c'est quelque chose qui vient plutôt après, pour moi c'était comme ça, mais qui est extrêmement passionnant. Et moi, j'ai dans mes réflexions, dans mes cours, j'essaie d'articuler ces deux notions, l'art et l'artisanat. J'ai un blog là-dessus et j'essaie vraiment de voir jouer ces deux notions ensemble. Mais effectivement, l'art et la vocation est un aspect très important. Et dans mes cours, j'ai toujours cette approche-là. Je commence par parler de l'art. Je commence par leur dire, maintenant il y a ChatGPT qui arrive. Sur comment on va faire pour se battre contre ChatGPT, qui va reprendre parfois des structures, des trucs automatiquement. Pour l'instant, c'est pas encore ça, mais dans quelques années peut-être. Donc je leur dis, ce qui va vous rester, c'est votre art. C'est la singularité de ce que vous allez mettre dans vos projets. C'est votre vision, c'est votre point de vue sur le monde. Voilà. Je commence toujours par cette partie-là. Et donc, on peut dire que l'art, ça ne prend pas vraiment, mais quand même un peu, on peut donner des indications, aider les jeunes à trouver un point de vue, avoir un point de vue sur le monde. Voilà, je commence par ça. Et après, je passe à la partie qui est plus artisanale, du métier. Je leur explique que tout ça vient de l'art. De cette volonté qu'on a de reproduire le réel en y mettant du sens et de l'émotion à destination d'un public. Et toutes les techniques qu'on peut avoir, elles servent à ça, quoi, quand même à créer un objet artistique. Bon, parfois, sur certains types d'écriture, l'art est très barre, faut l'avouer. Mais bon, moi j'aime bien quand même voir les choses, mettre un peu de hauteur dans ce qu'on fait. Parce que moi je suis un peu long. Tu veux y
aller ? Oui, enfin, sur la vocation, je ne sais pas si je fais partie des gens qui ne disent pas de CSP+. Je crois que le scénario, je ne savais pas ce que c'était. Et moi, ce que je voulais, c'était raconter des histoires. Ma vocation, c'était ça. Et nous, les gens qu'on a en formation, justement, on en parlait tout à l'heure, on n'a absolument pas de prérequis. C'est-à-dire qu'on accepte en formation des gens qui n'ont jamais écrit parce qu'on a envie de leur montrer que c'est possible, pas forcément de devenir scénariste, mais de savoir raconter une histoire, de pouvoir essayer de faire des choses avec le matériel artistique, peut-être, ou personnel qu'on a chacun en soi. Et nous, la vocation, effectivement, c'est aussi, comme disait Ludo, c'est de dire à chacun, votre histoire, elle sera bien parce qu'il y a quelqu'un qui pouvait la raconter. Et c'est ça qu'on essaie de faire ressortir au-delà de la technique, au-delà de... Ça, on peut la trouver dans les livres, la technique, on peut trouver tout ça dans les livres. Ce qu'on a en soi, il faut juste apprendre à le mettre en valeur, et c'est ça qu'on essaie de faire en... Enfin, donc c'est ça que je trouve intéressant dans les formations, quand on peut le faire. Voilà. Et dans ce genre, voilà, j'ai fait une formation avec la mission de faire un martinet. Pour dire que c'était des gens qui, franchement, avaient absolument envie de devenir scénariste. Et c'était l'année dernière, et elle m'a prendre chassé avec mes camarades, c'était ma fille qui font intermittent du spectacle aujourd'hui. Et qui, du coup, ont découvert ce métier et ont trouvé leur vocation.
Scénariste intermittent du spectacle ?
Non, il y en a un qui est scénariste, et les cinq autres qui travaillent dans le milieu d'audiovisuel, parce qu'on n'est pas que les futurs, on avait la réalisation, le jeu et le montage.
Mais les scénaristes, on aurait bien été intermittent aussi.
Juste pour rebondir sur la question de la vocation, de mon point de vue, j'ai la sensation que la question de la vocation aujourd'hui en France, vocation de scénariste, elle est vraiment toute récente, donc elle s'interroge beaucoup. D'où cette profusion, je pense, de propositions d'enseignement, d'où effectivement ce mouvement qui est en ce moment du côté du CNC, du côté des institutions. Avant, j'ai la sensation, en fait, on devenait un peu scénariste comme un peu par accident, quoi. Il y avait beaucoup de romanciers, de journalistes ou de réalisateurs qu'on avait marre du plateau. C'était un peu un travail en cas, quoi. Qui venait aider les réalisateurs. En plus, en France, depuis la nouvelle vague, on a cette culture de l'auteur-réalisateur, voilà, qui venait aider à écrire. C'est encore un petit peu le cas, mais ça bouge justement. Scénariste, c'était pas le métier le plus valorisant, hein, socialement. Sur la fiche, on est souvent oublié, on travaille depuis le début, on est parfois oublié même aux avant-premières. Bon voilà, ça bouge beaucoup. Mais du coup, il y a quelque chose de très récent en France, dans les pays anglo-saxons, ça fait déjà plusieurs générations que le travail de scénariste est valorisé, voilà, que la question de la vocation existe réellement. Donc là, pour le coup, c'est tout nouveau, j'ai l'impression. Donc là, c'est en bouillonnement, donc c'est plus quelque chose à questionner, je pense que... Voilà. Moi, il y a juste une question que je me pose beaucoup, c'est... On parle de raconteur d'histoire, et je trouvais effectivement parler de scénario, de scénariste, c'est une chose, mais c'est d'abord raconter des histoires. Donc, il faut un talent, il y a des techniques, sans doute, mais au-delà de ça, on raconte des histoires de gens. Et donc, la question de l'expérience humaine, d'une manière ou d'une autre, de porter une expérience humaine, c'est quelque chose d'hyper nécessaire. Donc, pour moi, pour faire le pont entre ce qui se passe aujourd'hui avec la multiplicité des formations qui permettent aux jeunes, et c'est heureux, aux jeunes auteurs de pouvoir se former très vite, et ce qui se faisait avant, où il n'y avait pas vraiment de formation, voilà, c'était des parcours qui allaient petit à petit à l'écriture, que ce soit au cinéma ou en télévision, pour moi, ce qui peut relier un peu ces deux choses, c'est quand même d'arriver à être porteur d'une expérience humaine suffisamment riche pour qu'elle puisse transpirer, transparaître, passer dans l'exercice de l'écriture.
À la fin
du coup.
Voilà, c'est juste, je peux compléter sur... c'est très juste ce que tu dis, je suis vraiment d'accord sur tout. Ce qu'il faut penser, quand on dit formation de scénariste, c'est pas juste un scénario, c'est pas juste tant d'âge qu'on écrit, qu'on pose sur une table. En fait, il y a tout un contexte autour du scénario, de cet objet scénario. Le scénario, c'est pas une œuvre finie, c'est un morceau d'œuvre, c'est une œuvre en devenir, qui va devenir un film ou une série. Voilà, et donc il y a plusieurs aspects à ça. Et moi, dans mon cours, en tout cas, ou peut-être qu'on en parle après, ou je peux en parler maintenant. Moi, dans mon cours, j'ai trois dimensions dans mon cours que j'essaie vraiment d'aborder. Et je leur commence à leur dire, voilà, scénario, c'est pas une seule chose, c'est trois choses. Donc c'est un objet artistique, comme je vous disais tout à l'heure, un objet d'artisanal, c'est un objet qui sert pour le métier, qui a un formatage pour que les gens qui travaillent avec nous puissent travailler, il y a un minutage pour chaque page, c'est vraiment un outil technique, voilà, et c'est aussi un objet économique. Le scénario a quand même un rôle important, c'est que grâce au scénario qu'on va aller trouver l'argent, pas que grâce au scénario, mais il y a un package qui va nous permettre d'aller chercher l'argent, qui est le réalisateur, le scénario, le comédien, voilà, qui forme le projet, et c'est souvent quand même le scénario qui va emporter l'adhésion des financiers, quoi. S'il n'y a pas de scénario, c'est compliqué. Donc voilà, c'est l'art, en fait, c'est pas juste, je pense qu'on ne peut pas se former, on peut écrire tout seul chez soi un scénario, mais c'est pas suffisant, quoi. C'est beaucoup plus large le métier scénariste.
Oui, mais justement, je voulais aborder la question de la méthodologie, puisqu'on l'a un petit peu évoqué, il y a énormément de livres suivant des méthodes diverses et variées pour écrire des scénarios. Vous intervenez aussi dans des structures très différentes. Quelles sont vos approches méthodologiques? Qu'est-ce qu'elles changent en fonction des endroits où vous enseignez? En fonction des formats, j'imagine, oui. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces différentes méthodes? Est-ce que vous pensez qu'il y a une grande méthode? Ou pas?
Justement, je trouve qu'il n'y a pas une seule méthode et pas une seule approche. Il y a effectivement des méthodes et des approches différentes en fonction du public qu'on a en face. On n'a pas du tout la même technique, méthode d'approche avec les jeunes de l'édition locale qu'avec des jeunes, qu'avec des personnes qui ont déjà eu des formations, qui ont déjà écrit, qui en sont à leur premier ou leur deuxième long métrage. Et d'ailleurs, les gens ne viennent pas chercher la même chose. Et je pense que les formations et les formateurs, c'est aussi à nous d'adapter la façon dont on donne un savoir-faire aux gens qu'on a en face de nous. Parce que ça ne sert à rien de faire une formation quand je reviens là-dessus. Le premier conseil que je donne en formation, c'est lisez tous les livres et oubliez-les. Parce que ce n'est pas ça qui va faire de vous un scénario. C'est la pratique, c'est de partager avec les autres. Nous, dans nos formations, on essaye à chaque fois de faire que chacun partage son savoir. Il y a des gens qui adorent travailler avec les post-it, par exemple, j'en ai dans un débat très bête, mais la structure, il y a des gens qui adorent travailler avec les post-it. Il y a des gens qui adorent travailler avec les tableaux, il y a des gens qui adorent travailler avec des outils numériques. Et parfois, les uns et les autres, on ne sait pas ce que chacun fait, et ce qui est intéressant, c'est de justement pouvoir partager ça, pour que chacun y trouve quelque chose pour se former et amener son propre projet là où il doit aller. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de solution unique. Vraiment, il faut adapter les choses en fonction des gens qu'on a en face, je pense.
Oui, je suis entièrement d'accord, je vais dire ma façon. Déjà, être scénariste, enfin, quand je suis scénariste, de toute façon, je m'adapte déjà à mon co-auteur, qui est souvent le réalisateur, on va parler de cinéma, qui est souvent le réalisateur, la réalisatrice, donc qui est souvent déjà, qui est déjà à l'origine de la genèse du projet. C'est ça que ça se passe beaucoup ici en France. Donc il y a une adaptation, il y a une adaptation à la coécriture, il y a une adaptation aussi à la sensibilité, à l'univers même du projet qui va amener des méthodologies différentes. Le fait d'avoir une culture de la dramaturgie, ça aide. Ça aide et ça vaut le coup parce que ça permet d'avoir un bagage. Ça sert à rien de réinventer la bicyclette. Il y a des fois, il y a des, voilà, il y a des trucs et astuces, il y a des questions, il y a des outils fondamentaux qui permettent d'interroger un travail en cours qui peuvent, voilà, ça peut faire gagner du temps. Donc je recommande cette culture-là, de l'approfondir. En fait, en sachant une chose aussi, c'est que la dramaturgie, c'est la relation qu'il y a entre les œuvres et le public, donc ça ne cesse de bouger, surtout avec la série. Quand il y a des trucs qui commencent à marcher, le public s'y habitue très vite, donc ça change tout le temps. Donc la dramaturgie fixe, ça n'existe pas, ça bouge tout le temps. Donc cette culture-là, c'est bien de l'avoir, mais effectivement, je rejoins mes camarades, c'est pas ça qui va faire le... Voilà, ça aide. Voilà, c'est un outil. On met souvent ça en avant, c'est ce qu'on trouve dans les manuels, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à expliquer. Voilà. Mais ne jamais oublier, et c'est pas toujours très simple souvent les endroits où on travaille sur une sensibilité. Donc il y a aussi une sensibilité à trouver, effectivement, et à ne jamais perdre de vue, comme le disait Ludo, effectivement, avec des dimensions, quelquefois qui sont des dimensions de marché, sur certains projets, des dimensions de production. Voilà. Et cette complexité, c'est effectivement d'arriver à garder un peu la tête dans les nuages et les pieds sur terre, d'arriver toujours à avoir... C'est ça un scénariste, je pense. Et c'est ça qu'il faut chercher. Chacun le fait à sa façon, mais c'est à la fois d'être très très concret, de jamais perdre de vue la faisabilité d'un film, c'est pas une œuvre littéraire, mais effectivement aussi, il faut garder son imaginaire, sa sensibilité, ne pas étouffer avec tout ce travail technique.
Je trouve que le scénariste, je le vois un peu comme un sportif de haut niveau, c'est-à-dire que le sportif de haut niveau qui va se former, par exemple un nageur, il ne va pas prendre un bouquin, il ne va pas lire 15 bouquins sur comment bien nager le crawl, il en regarde un peut-être ou deux au début, hein, parce que la technique, on voit l'angle de la main, etc., ça apprend des choses, et le vrai apprentissage, il se fait dans l'eau, en travaillant, en faisant les choses. Donc je pense que ça, c'est un axe important pour le scénario, c'est faire, c'est écrire, c'est travailler en coécriture, c'est vraiment être dans le réel, quoi. Le problème des manuels de scénario anglo-saxons, c'est qu'ils font une promesse qui est fausse, souvent. Ça fait rêver quand on lit, on croit qu'on va écrire des chefs-d'œuvre, et ils vendent que si vous suivez les règles, les 21 étapes, je ne sais quoi, vous allez faire un scénario incroyable dès le premier coup, et vous allez gagner du temps, et vous allez vendre un scénario pour un million. Donc, en fait, c'est des conneries. Ça, c'est vraiment pour voir les conneries. Par contre, il y a des choses à prendre quand même, mais souvent, c'est assez pédagogique, et ils expliquent bien la dramaturgie classique, c'est-à-dire celle qui a été développée par Aristote il y a 2000 ans, toujours sur les mêmes modalités de narration. Voilà, et j'ai dû vous en venir.
Non, c'est clair. Et justement, pour passer un peu plus sur le volet du style, j'imagine que vous intervenez auprès de publics très différents, vous avez un peu évoqué. Comment est-ce qu'on arrive, quand on est formateur, à la fois dispenser une formation un peu collective, tout en respectant l'unicité de chaque personne qu'on a en face de soi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à les accompagner dans le développement de leur univers, de leur style, alors que, bon, voilà, on a une formation qui, par essence, est collective. Donc, quels sont vos...
Alors, en fait, ça dépend de, effectivement, où on enseigne et quel type d'enseignement dont il s'agit. Quand je suis à la fac, effectivement, c'est assez magistral. Et c'est des cours... mais c'est que ça reste un petit groupe, quand même, donc on peut quand même sortir de la théorie et parler vraiment du concret, mais ça reste théorique assez, on n'a pas le temps de faire du particulier. Voilà, après, donc moi je coach des apprentis scénaristes à citer des scénaristes, et donc là je pense que c'est vraiment la meilleure façon pour apprendre, c'est qu'ils aillent vraiment travailler avec des scénaristes sur le terrain, qui soient dans des rondes d'écriture, qui voient concrètement comment ça se passe, mais ça c'est pas suffisant. Ce qu'on fait à la cité, c'est qu'on fait un vendredi sur deux, pendant 8 vendredis, moi j'ai un groupe de 10 apprentis, on se voit pendant 4 heures, et chacun raconte les meilleures leçons qu'il a apprises, les obstacles qu'il a rencontrés pendant les 15 jours d'avant. Donc vous avez des gens qui bossent dans l'animation, des gens qui bossent dans le room pour Netflix, quelqu'un qui travaille sur un film d'auteur, etc. Et donc on fait un cercle, c'est un peu comme un cercle de parole d'alcoolique anonyme, et voilà, et chacun raconte un peu ce qu'il fait, etc. Et moi je me remets au mieux, je leur dis, depuis 15 jours j'ai appris ce truc-là. J'ai eu un rendez-vous avec un prof, c'était horrible, je pensais que... Ça n'avait pas recommencé, mais ça a recommencé. Voilà, et voilà. Donc on a ça, qui est vraiment hyper important, on appelle ça des séances auto-réflexives, que les gens, par eux-mêmes, en faisant, comprennent les choses. Voilà. Et aussi en discutant avec d'autres. Il y a ça. Et il y a un autre, et l'autre truc qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des rendez-vous à deux. Où là, je les prends vraiment un par un, et on se voit pendant une heure, et là, ils doivent écrire trois idées. Ils ont 6 mois pour écrire 3 idées d'une page. Et tant que l'idée n'est pas bonne, on avance pas, c'est une page. Et donc là, je les vois face à face, et là, je leur dis, c'est votre projet personnel. Je veux que tu me dises des trucs personnels, que tu mets des choses personnelles dedans, et voilà. En toi, en tant qu'auteur, qui tu es, et là, on est vraiment sur la personnalisation. Voilà. Et c'est en multipliant comme ça les expériences que je pense qu'on forme vraiment de manière la plus large les scénaristes.
Alors moi,
je
pardon, sur le site, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Il y en a, à mon sens, une seule, c'est juste d'écouter les gens, de les écouter, de savoir d'où ils viennent, où ils vont d'aller, ce qu'ils ont envie de raconter. Nous, on a tendance à... On pleure beaucoup dans nos formations, on se comprend beaucoup en mangeant des bonbons, en fait. Parce que, vraiment, c'est presque psychanalytique à certains moments. On a des gens qui essayent d'écrire des choses, on voit très très bien, parce que à force, on voit bien où ça bloque, pourquoi ça bloque. La mère, le père, on le voit, mais on ne peut pas l'écrire à leur place, c'est surtout pas le but, et il faut juste essayer d'écouter la personne pour lui donner la confiance et l'espace pour poser ça derrière. Et nous, vraiment, ça pleure beaucoup chez nous, parce qu'à un moment, ça lâche, et parce qu'on a une formation vraiment écrite d'un court-métrage en 5 jours, où, comme je disais, ils vont...
Un 6 mois pour écrire 3 idées, mais c'est
voilà, trois heures pour écrire un court-métrage. On va pas proposer la première idée, donc vraiment 35 heures pour écrire un court-métrage, donc il faut aller vite. Et je pense aussi que toutes les formations sont différentes, on en fait des courses et des longues, mais le fait d'être vite toute la semaine ensemble dans un même lieu, il y a un moment ça lâche beaucoup plus vite et les gens arrivent très vite aussi à ce qu'ils veulent écrire. Ce ne sera pas le scénario parfait, mais ils vont trouver le chemin de ce qu'ils voulaient vraiment dire. Et pour ça, je pense vraiment que c'est que j'écoute. Et le fait d'être plusieurs formateurs fait aussi que, quand parfois ça passe pas bien avec un, il va trouver du coup une oreille plus attentive chez l'autre. Et on change, on trouve, enfin voilà, ça c'est vraiment un truc que, je il y a peut-être des solutions plus académiques, mais on est vraiment dessus.
Sur la question du style, pour moi, c'est vraiment très différent. Parce que comme j'interviens dans des structures qui accompagnent des auteurs déjà aguerris d'une certaine façon, comme le groupe West ou les petits talents, le style est déjà, là, il est déjà saillant. Donc là, on est plus dans le cadre d'un accompagnement, peut-être agité à l'inverse d'auteurs et d'autrices qui tournent en rond, qui ont besoin d'ouvrir encore un peu plus quelque chose qui est identifié. Et c'est peut-être encore un territoire qui est peut-être intéressant. Dans le cadre de formation auprès de plus jeunes auteurs, comme la nouvelle écriture par exemple, moi j'ai plutôt tendance, la question du style, je la trouve encore un peu prématurée. C'est-à-dire, le style, ça vient aussi avec la maturité. Et je parlerai plus en termes de sensibilité et de compétence. Pareil, la tête en haut et puis les pieds en bas. La sensibilité, c'est, il y a ce qu'on a envie de faire, il y a ce pourquoi on croit qu'on est fait, et il y a la rencontre avec une écriture. Et comme vous l'avez dit, l'expérience multiple est la plus multiple possible, et je pense que c'est ça que des structures de formation peuvent offrir expérimentalement, c'est de s'essayer. Parce qu'on peut avoir envie de faire de la comédie, on pense qu'on est fait pour la comédie, parce qu'on est très drôle en famille, etc. Et puis, on s'acharne, et puis on découvre un jour qu'on a quelque chose avec la tragédie, avec, le thriller, le policier, n'importe quoi. Donc il faut essayer. Souvent, les rencontres des futurs évidentes, comme ça, quelque chose qui cristallise, voilà, elles ne sont pas forcément là où on croit que ça va arriver. Donc, travailler sur sa sensibilité, je connaissais un producteur qui parlait de disque dur. Il disait, ce réal-là, il a trouvé son disque dur. Voilà. Donc il faut chercher son disque dur, et donc pour ça, les formations, idéalement, c'est de proposer tout un panel d'expériences qui permettent de le chercher. Et il faut aussi ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Il faut aussi accepter que la place où on va se trouver n'était pas forcément celle qu'on avait envisagée. Et je vais parler de compétences, alors là, c'est beaucoup plus technique. Et plus on va vers la série, plus cette question de compétence, elle est importante, parce que un travail de scénariste, en fait, scénariste, ça peut vouloir dire plein de choses, entre concevoir des concepts, entre développer des arches, entre avoir une sensibilité sur les personnages, et imaginer des trajectoires de personnages, et être capable de développer leur psychologie, par exemple, avoir une relation très thématique avec les projets, et voir comment ces projets peuvent s'ancrer aujourd'hui dans notre société. avoir une relation avec le genre, par exemple. Ou alors être bon dans la scène, dans l'écriture de scène, ou les dialogues, par exemple, ou la technique de la structure. Voilà. Rarement, les scénaristes sont bons partout. Rarement, les scénaristes sont à... Enfin, à moins d'être un génie, on n'est pas à 100% partout. Et donc, dans la formation, qu'elle soit initiale ou, on va dire, professionnelle par la suite, je pense que tous les scénaristes doivent s'interroger sur leur domaine de compétences, là où ils sont les meilleurs. C'est évident que si vous avez quelque chose avec le dialogue, voilà, peut-être la meilleure façon d'avancer dans le métier, c'est pas forcément de pondre des concepts à tout bout de champ, mais il faut peut-être intégrer des rondes d'écriture. Enfin, voilà. Donc la question de savoir, dans toute la chaîne d'écriture du scénario, à quel endroit vous situez le mieux, vous êtes le plus musclé, voilà, ça c'est une question très importante.
Ouais, je pense que aussi une formation, un des objectifs c'est de démystifier le scénario, parce que quand on est jeune, on se fait des idées incroyables. D'ailleurs, on voit souvent ça quand on a un métier de romancier, d'artiste, on est seul dans sa chambre, etc. En fait, c'est différent, c'est souvent, on travaille en équipe, voilà. Et après, ce que j'ai fait de faire aussi, c'est de leur montrer qu'il y a plusieurs types de scénarios. Il n'y a pas un scénario parfait, il y a différents types d'écriture. Ce que je fais assez vite, c'est que je leur sors une page d'un scénario d'un film de Jacques Audiard et une page de Plus belle la vie. Voilà. Et on compare les deux. Je leur dis, voilà, c'est quoi la différence et pourquoi, si vous faites des techniques d'Audiard, ça ne serait pas pris dans un groupe de Plus belle la vie. Ils diront que c'est pas bon ce que vous avez fait. Et je leur montre vraiment la différence. Je leur explique pourquoi on veut dans Plus belle la vie, pas de sous-texte. Parce que les gens qui regardent sont en train de faire la cuisine, et ça passe par l'audio, donc ils ne voient pas les personnages jouer. Voilà, alors que bien, on est au cinéma, on est devant son écran, et on a le temps de voir le jeu des comédiens, le sous-texte, tout ce qui est un peu caché, etc. Et voilà, donc c'est deux choses différentes, mais je leur dis, voilà, il y a plein de gens qui préfèrent travailler sur la quotidienne, comme Plus belle la vie, ou si tout commence. Et moi, je fais pas de gradation chacun fait ce qu'il veut, et par contre, il faut leur montrer la différence. C'est pas la même chose, essayer de leur montrer un peu tout ce qu'on fait concrètement en France. J'essaie toujours d'être le plus réel possible, et de sortir des idées un peu éthérées qu'on peut avoir sur le milieu. Et voilà, et partir vraiment d'exemples, toujours amener ça à des exemples concrets de pratique et de réalité du milieu professionnel.
Justement, pour parler de cette réalité du milieu professionnel, j'ai le sentiment, personnellement, c'est quelque chose qui est très peu abordé dans les formations. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Est-ce que vous l'abordez? De quelle manière vous pouvez transmettre justement cette réalité? Parce que c'est vrai qu'on a tendance quand même à fantasmer ce métier. Comment est-ce que vous essayez de ressentir au mieux sa réalité auprès de vos apprentis?
Alors, moi, j'ai mon approche en lieu de ça. Il y a plusieurs manières de faire, mais moi, je me dis qu'un bon... prof de scénario, qu'il soit scénariste lui-même, si possible qu'il ait fait des choses quand même, pour pouvoir parler du réel, quoi. C'est compliqué sinon, parce que c'est tellement complexe comme métier, il n'y a pas une recette, ça se fait beaucoup dans le relationnel. Bah, voilà, je pense que moi j'essaie toujours d'avoir de la matière, je leur parle de mes projets, de mes films, je leur montre mon synopsis, je leur montre mon séquencier, je leur montre comment on passe de l'un à l'autre, je suis toujours très concret. Je leur explique pourquoi ce projet a été vendu et pourquoi celui-ci n'était pas vendu. Voilà, on essaye d'aller sur le réel. Et je pense que moi je suis des formations, je ne suis pas formateur. Régulièrement, je vais à des formations, et plutôt de collègues scénaristes qui font des formations. Par exemple, la dernière que j'ai faite, c'était Marc Herpoux sur les moteurs dramatiques de Ferial, des séries. Je l'ai fait il y a 2 ans, et c'était excellent. J'ai appris des choses encore, que j'avais mal conceptualisé, que je voyais mal. Ça m'a éclairé vraiment sur plein de choses. Voilà, mais lui, quand il parle de ses moteurs sériels, c'est du concret, parce qu'il a travaillé sur une série qui s'appelle Pigalle, il a eu des soucis avec Canal+, la Canal+, voulait mettre du plot, de l'intrigue, alors que lui, il était plus sur les personnages, ils n'avaient pas le même vocabulaire, ils n'arrivaient pas à comprendre. Voilà, et donc là, on apprend, j'apprends beaucoup, parce que ça va me servir vraiment, moi, après, dans mon boulot.
Encore pareil, comme j'interviens dans des structures différentes, le groupe Ouest, je travaille avec des scénaristes, des auteurs réels qui sont déjà professionnalisés d'une certaine façon. Donc là, c'est tout l'inverse. C'est des gens qui ont besoin de s'isoler du milieu, ils le connaissent déjà, et là, l'idée, c'est de favoriser, voilà, les faits de résidence en Bretagne, au bord de la mer, vraiment très loin, du milieu parisien, etc. Bon. À Nouvelle d'écriture, par exemple, c'est tout l'inverse. Il s'agit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il s'agit effectivement d'amener vers ce milieu professionnel, donc des jeunes qui a priori n'ont pas, on va dire, l'affiche au départ pour le ticket, la clé au départ pour rentrer là-dedans. Donc la question d'avoir une relation hyper professionnalisante très vite dans la formation, voilà, c'est essentiel dans l'approche d'une structure comme Nouvelles Écritures. Du coup, ça veut dire effectivement tous les scénaristes qui interviennent sont des scénaristes en exercice. Au-delà de ça, des rencontres avec des professionnels, mais pas que des scénaristes, des producteurs, des diffuseurs. Il y a un stage lors des 10 mois, 9-10 mois que dure la formation, il y a un stage en structure de production et de diffusion, voilà, qui est proposé à tous les auteurs qui rentrent dans la formation. Il y a, voilà. Donc là, il y a des approches très très différentes, effectivement. Mais c'est vrai que comme à chaque fois on y revient, la question du faire est primordiale, c'est-à-dire qu'il est évident qu'une formation ne doit jamais complètement se couper. Une bonne formation ne doit jamais complètement se couper du milieu professionnel.
Ouais, nous, on a aussi une approche, en règle générale, j'ai une approche, déjà quand j'étais prof en fac, très pratico-pratique. Toutes les questions sont bonnes à poser, y compris, et surtout toutes les questions sur comment on va vivre ce métier. Parce que c'est super joli de se dire on va écrire des super livres, en réalité, l'émotion, c'est payé, pas beaucoup, en trois fois, c'est compliqué, il faut rencontrer l'envoyer à son producteur avant d'en avoir un, si on veut vraiment vivre ce qu'il faut, plusieurs années, des projets, 4, 5, 10, 12, enfin, ça, et scénariste, effectivement, ça veut dire énormément de choses, quand on veut en vivre, hein, je ne veux pas juste quand on le fait à côté d'un autre métier, quand on veut vivre de ce métier, oui, c'est un vrai travail, et du coup, c'est, je viens d'entendre le mot artiste, c'est justement pas seulement de l'artistique. C'est aussi être son propre employeur, quelque part. C'est donc, du coup, on parlait tout à l'heure, avoir des relations super intéressantes avec leur place limousin. Et ça, c'est des choses, nous, on en parle vraiment en formation. Et moi, vous avez dit, allez-y sur les anecdotes. Une des plus belles anecdotes. Enfin, c'est une de mes étudiantes à la fac qui, à la fin de l'année, je vais voir, elle m'a dit « Franchement, là, je vous remercie. » Non, parce que je ne vais pas faire ce métier. Et après, elle m'a expliqué, elle m'a dit « Bah oui, parce que j'ai compris que je n'avais pas les épaules pour supporter tout ce qu'il y avait autour de ce métier. Donc, je vais devenir prof. » Elle est devenue prof, d'ailleurs, et elle a fait des petits modules, elle est devenue artiste. Et elle fait des modules scénario avec ses élèves. Mais tout ce qui est autour du métier, elle ne voyait pas comment le supporter. Et ça, effectivement, je me dis, ben voilà, j'ai pas forcément complètement raté mon coup, parce que j'ai fait empêcher des années de galère à se dire, voilà, c'est compliqué, qu'est-ce que je mange demain et comment je fais, quoi. Voilà, nous, on est vraiment, on cache rien du tout aux gens qu'on informe à ça. Au contraire, on pense que c'est un peu peur. Mais bon.
Et j'ai perdu le fil de ce que j'allais vous demander. Je vais me retrouver.
On peut parler sur ça de
voilà, je vais vous demander ce qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure. Quel est votre point de vue sur la multiplicité des formations, justement? Parce qu'on dit qu'il y a des formations qui n'arrêtent pas de naître. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou une mauvaise? Est-ce qu'il faudrait encadrer ces formations, c'est-à-dire est-ce qu'il faudrait quand même définir un certain cahier des charges, ou alors est-ce qu'on se dit c'est la jungle, peu importe les niveaux, tant mieux, il faut que tout le monde ait accès à tout et n'importe comment.
Je pense qu'entre le cahier des charges et la jungle,
il y a un milieu. J'ai pris les deux extrêmes pour te laisser le boulevard.
Bon, personnellement, moi je suis. D'abord, on l'a dit tout à l'heure, il y a effectivement l'expérience est fondamentale, la multiplicité des expériences est fondamentale. Bon, moi, de toute façon, je suis pour la liberté, donc de toute façon, la question est située ailleurs. C'est-à-dire que, oui, il se passe beaucoup de choses, oui. Alors, il y a enfin une reconnaissance professionnelle, oui, en grande partie, on peut apprendre des choses. Apprendre, ça veut dire gagner du temps. Pour se professionnaliser, c'est-à-dire accéder à des réseaux, à un milieu professionnel, etc., puis avoir un bagage d'expérience qui n'est pas directement sur le marché du travail, mais on expérimente des choses avant d'arriver sur le marché du travail, avoir un bagage dramaturgique, voilà. Donc, tout ça, c'est important, mais on voit à quel point Il n'y a pas une façon, il y a 10 000 façons de faire les choses. Donc, légiférer pour avoir un encadrement des écoles, moi je ne suis pas du tout pour. De toute façon, les bonnes structures de formation tiendront, auront des résultats, voilà, les moins bonnes, ce sera un peu plus compliqué. Ça, c'est un point de vue qui est très personnel. La question qui se pose plus en ce moment, c'est qu'il y a un engouement, effectivement, autour de ce métier-là, qui n'était pas considéré comme un métier avant. D'ailleurs, on pourrait parler de ça, à quel moment on dit qu'on est scénariste. C'est pas forcément quand on envie, parce qu'on vit, c'est pas forcément... C'est, voilà. La question du syndrome de l'imposture chez les scénaristes, à quel moment on le dépasse, on ose dire qu'on est scénariste. Bon, voilà, je referme la parenthèse. En fait, la question qui se pose en ce moment, c'est effectivement tout ce qui favorise cette reconnaissance, favorise effectivement l'émergence de formation, et donc la promesse d'emploi et de travail. Même si les plateformes permettent une ouverture, il y a du contenu, il y a de la fiction à créer, etc. Malgré tout, ça reste un métier dur, ce que tu as très bien dit, il faut sans arrêt le rappeler. Oui, c'est un métier dur, c'est un métier précaire, on n'a pas de chômage. Donc c'est, voilà, c'est compliqué. Ça peut être très violent aussi entre justement la question de la vocation et ce qu'on vit concrètement sur le terrain. Donc, moi, juste la question que je me pose par rapport à ça, c'est jusqu'où tout ce qui émerge en ce moment, on va dire, va trouver une place dans la création d'œuvres à venir. Voilà. Mais c'est plus une question, que je me pose qu'un constat.
Moi, j'étais assez d'accord avec les deux, donc tu disais qu'il faut que les formateurs soient des gens qui soient en activité. Je pense que c'est un des prérequis quand quelqu'un veut faire une formation, et moi je suis toujours effarée, mais vraiment encore aujourd'hui, avec les gens qui viennent en formation d'un ou d'un autre, enfin, je ne connais pas les gens de l'autre, pareil, les premières choses qu'on fait, c'est est-ce que vous savez qui nous sommes? Est-ce que vous nous avez googlé tout bêtement? Il y a marqué, voir les trois quarts des gens, ne savent pas qui on est. Les gens s'inscrivent à des formations sans savoir qui les forme, qui va leur donner des informations. Donc, moi, c'est ça qui me fait peur, parce que la multiplicité des formations, parfois, j'appelle bien la formation qu'ils veulent, et les gens sont adultes, mais du coup, il faut aussi, on peut toujours réguler en disant, il faut, ok, un diplôme de je sais pas quoi, de je sais pas quoi, mais il faut aussi que les stagiaires, à un moment, fassent attention eux-mêmes au départ, sélectionnent, regardent ce qui leur convient, regardent ce qu'ont fait les gens, parce que je pense que vraiment, le message n'est pas le même quand on est face à quelqu'un qui est en activité aujourd'hui, pas qu'il était en activité il y a 25 ans. Ça peut être bien d'avoir des renseignements sur ce qui se faisait avant pour comparer avec ce qui se fait aujourd'hui, mais il faut pouvoir avoir les deux bouts de la chaîne. Et ça, pour moi, ça fait partie vraiment des... Je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de moi, je pense qu'on a surtout besoin de chacun, hein, d'ailleurs, moi aussi, je suis des formations, mais pas même je regarde avant, ce que je ne faisais pas forcément avant, moi-même, dans deux, mais là, je me renseigne sur qui sont les formateurs, qui sont les gens qui me parlent. Et pour moi, c'est juste la base, en fait.
Moi, je suis plutôt pour créer des écoles de scénario, effectivement. Et comment on légitime la bonne école, la mauvaise école? Moi, je pense que oui, si les profs sont vraiment en activité, c'est quand même beaucoup mieux. Après, je me dis, il faut en créer, mais pas où on les crée d'habitude. Donc, à Paris, il y a beaucoup d'écoles de scénario, il y a beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est plus en province qu'il faut essayer de créer des moyens d'accès au métier pour essayer d'avoir des nouveaux talents, des nouvelles voix, des nouvelles personnes. Effectivement, tu en parlais tout à l'heure, on est un peu dans un... Les scénaristes en activité se ressemblent un peu tous, quoi. Quand j'étais à la guilde, on se rendait compte que le profil, c'était que des blancs de 45 ans. Voilà, c'était vraiment monochrome, quoi. Il y a un problème avec ça. Donc, il faut aller voir un peu plus loin et donc créer des écoles en province. Nous, ce qu'on fait à la cité, c'est qu'on a créé des antennes de notre centre de compagnonnage. On en a créé deux en province, on en a créé une en Belgique. Et voilà, et donc quand on cherche un peu, on trouve beaucoup de scénaristes qui habitent en province. C'est un métier où on peut habiter loin de Paris et venir que pour les rendez-vous. Et du coup, en fédérant un peu ces scénaristes en province, on arrive à trouver du compagnonnage, à créer du compagnonnage en province. Donc ça, je pense que c'est un truc qu'il y a vraiment à faire. Et dans l'ensemble, enfin, je suis pour qu'on crée des écoles, qu'on parle de scénario, qu'on continue à développer cette culture du scénario. C'est vrai que la culture scénario est assez récente finalement. En France, on a toujours eu du retard là-dessus. C'était plutôt les réalisateurs qui avaient le pouvoir hégémonique, on va dire culturel, sur la création des récits et des films. Ça a beaucoup bougé grâce aux séries. Ça vient plutôt du monde anglo-saxon, mais en séries, c'est le scénariste qui est la star. Et effectivement, maintenant, on produit beaucoup de séries, donc je pense qu'on continue de former les gens et continuer de cristalliser cette identité de scénariste qui est encore vague, mais on y travaille beaucoup. Hein. Moi, je travaille beaucoup sur cet aspect culturel des choses, et on a envie que ce soit un métier, qu'on ait l'identité, etc. Je pense qu'on va dans la bonne direction. Moi, je suis pour continuer quand même à développer des choses, des écoles, des think tanks, des je ne sais quoi, des syndicats.
Avant de passer bientôt la parole à la salle, je veux savoir si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui devrait se former au scénario aujourd'hui.
Plein de conseils. Bon courage. Moi, je peux en donner plusieurs, j'en ai plein, mais le premier conseil que je dirais, c'est qu'il faut cultiver sa curiosité, parce que c'est un métier où on n'est pas tout seul, on découvre des choses, on découvre le monde. Moi, si j'écris, c'est pour essayer de comprendre le monde qui m'entoure, parce que je comprends souvent pas grand-chose, mais mettre en récit, ça me permet de mettre du sens dans les choses, et j'ai beaucoup travaillé sur le terrain, rencontrer les gens, et la curiosité, c'est vraiment un moteur important. Et après, moi, ce que je conseille à mes élèves, c'est d'avoir une souplesse mentale, d'être capable de passer d'un milieu à l'autre, de ne pas être dans les préjugés, de rester ouvert, voilà, de ne pas être trop dans des idéologies trop marquées, et de pouvoir voilà, passer d'un milieu à l'autre et essayer de voir le réel dans sa complexité pour le retranscrire après dans les projets. Donc voilà, souplesse mentale, curiosité, ouverture, je dirais.
C'est complètement écrire ou pour se former?
Oui, pour devenir scénariste.
Ah,
pour devenir en fait.
D'accord.
Si tu veux les conseils pour écrire,
vas-y. Non, les deux. Pour écrire, écrivez. Et pour m'informer, pour moi.
J'essaie de réfléchir parce que c'est difficile de donner effectivement un seul conseil. Ouais. C'est tellement, effectivement, la curiosité, l'imaginaire, l'expérience, la sensibilité, la technique. Tout ce dont on a parlé. Moi, s'il y en avait un, c'est de, je suis convaincu que le scénario est plus proche du travail du conteur que du travail littéraire. C'est-à-dire que, oui, il y a le clavier, oui, on écrit. Aujourd'hui, justement, avec la série, il y a des scénaristes qui n'écrivent pas, qui sont dans des rooms et qui donnent des idées et qui sont très bons scénaristes, voilà, qui ne sont pas forcément de bons rédacteurs ou de bons dialoguistes. Donc,
pour être...
Oui, donc c'est d'abord raconter des histoires. Je pense que le travail du scénario via le cinéma, via la série, est plus proche de l'oralité, du talent. Même les, on va dire, les outils d'écriture du scénario sont des choses qui viennent du conte. La préparation paiement, quand un truc surgit, il ne vient pas de nulle part, on l'a préparé un petit peu. Il y a des petits trucs de prestidigitation, presque de prestidigitation narrative. C'est des trucs de conteur. Donc un truc tout bête, il faut avoir envie, aimer, adorer, ne pas pouvoir se passer de raconter des histoires. Si c'est juste pour faire carrière, ça ne suffira pas. Peut-être qu'effectivement, avoir envie d'avoir... Voilà, ça peut être attirant. Effectivement, il faut essayer pour voir comment ça se passe. Il y a des moments où on vit des pressions très fortes, qu'elles soient à l'intérieur du travail, qu'elles soient à l'extérieur, qu'il y ait une pression sociale, financière ou autre. La meilleure façon de résister à cette pression, c'est d'adorer ce qu'on fait. Voilà, même si on en est à la V33 et qu'on ne sait plus comment on va réécrire la nouvelle version du scénario et qu'on nous le demande, il faut retrouver un plaisir enfant. Hein, ça. Donc il faut juste ne jamais oublier qu'on aime raconter des histoires et il faut sans arrêt s'étalonner à ça. Si ce n'est pas le vrai moteur en soi, je pense que peut-être ça va se découvrir en cours, mais il y a des chances pour que ce soit pas.
Merci beaucoup. C'est vrai que la musique dehors ne soit pas plus dans le ton que les mouvements que tu vas partager. Alors je vous signale au public, comme conseiller Christelle, n'hésitez pas à aller sur internet, googliser les noms de chefs d'intervenants pour savoir dans quoi ils travaillent, ce qu'ils proposent, etc. Et merci beaucoup à vous trois, c'était passionnant. On n'a malheureusement pas le temps de s'étendre, on va laisser un peu le temps au public de vous poser des questions. Est-ce que vous voulez vous lancer quelqu'un? Je vais venir avec mon micro. Oula, je crois un peu en...
Vous avez donc plutôt, je suis journaliste avec grand secret. Juste avant vous, il y avait une réunion de la société qui a présenté une étude sur les scénaristes pour montrer combien c'était un métier précaire, comment ils étaient soumis à des risques psychosociaux, etc. Et justement, est-ce que... Et il y avait gens qui s'apprêtent juste le fait qu'il y a des transformations et qu'on les envoyait en fait en gros au casse-pipe. Donc, et moi j'interroge les gens qui ouvrent des formations et la réponse c'est on manque de scénaristes. Quelle est votre vision de ça? Et l'autre chose qui était dit aussi dans ce débat, c'était que les scénaristes formés, ils n'avaient aucune notion de ce qu'étaient les contrats, des éditions, on leur avait jamais appris ça. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous prenez en compte?
Moi je pense qu'on en mettra jamais personne d'écrire. Donc autant que les gens qui veulent écrire soient formés. Est-ce qu'on a trop pas assez des formations, je ne sais pas.
Non mais les scénaristes, est-ce que vous trouvez que la concurrence est plus rude qu'avant?
Non, c'est pareil, c'est pareil. Franchement, le métier est peut-être plus difficile parce que plus complexe par l'apparition de plein de diffuseurs, de plein de, justement, on parle de contrats à comprendre, de clauses à comprendre, c'est très compliqué. Et effectivement, peut-être que la problématique des scénaristes qui ne comprennent pas leur contrat, elle n'est pas complètement fausse. On aime bien être sur l'artistique et dès que ça commence à être quelque chose d'un peu technique, on a tendance à fuir. Donc oui, probablement qu'il faudrait des scénaristes et des vraies formations bien plus abouties. Au contraire, au métier tout court, en fait, et aux problématiques qu'on rencontre dans le métier. Alors on peut essayer de faire en formation, mais je ne me cache pas que quand on est avec des jeunes gens qui débutent, qui ont envie de faire ce métier, quand on aborde la question des contrats, ils n'ont pas très très envie d'en parler parce que c'est chiant. Enfin, pour eux, dans l'absolu, dans la pratique, au quotidien, on voit très très bien que c'est chiant, hein, que c'est ça qui nous protège de beaucoup de choses. Mais quand on est en formation, c'est quelque chose que les gens n'ont pas envie d'aborder. Ils ont envie, comme tu dis, de faire un compte, de trouver des jeux de soi, ils ont envie de rêver, de se dire on va la vendre, de se dire on va réaliser. Oui, bon là je suis d'accord avec vous, il faudrait beaucoup plus de formations pratiques sur les métiers de l'écriture, sur comment on lit son contrat, comment répondre à son producteur, tout ce genre de choses, ouais, ça devrait être beaucoup plus développé.
Et concernant donc, ce que je disais à Maxime Bezraval, j'étais tout à l'heure à la conférence, et son étude est hyper intéressante, hyper documentée, et donc on est tous les scénaristes professionnels, ou qu'on change de ça, moi, clairement, dans les formations que je donne, j'en parle. Ce qu'il faut, c'est qu'on a besoin de temps. C'est-à-dire, si on fait une formation de 4 jours, on n'a pas le temps d'aller là-dedans, quoi. Donc, c'est pour ça qu'à la Cité, on fait, comme vous le disiez, hein, des cercles de parole, hein, comme aux acolytes anonymes, hein, et on raconte, on prend 4 heures pour vraiment raconter les expériences, raconter les galères, et moi, je me mets au même niveau qu'eux, et je leur dis, en fait, vous croyez que je suis super bon et tout, que j'ai vendu plein de contrats, en fait, c'est hyper galère, je leur dis la vérité. Il faut vraiment essayer de dire la vérité des choses et prendre le temps d'en parler. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que fait Maxime dans ses travaux-là. Après, je trouve que c'est un jargon sociologique difficile à comprendre par moment. Et on peut dire la chose tout simplement. Mais oui, il faut dire la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a que 5% peut-être des scénaristes qui gagnent beaucoup d'argent, qui font toutes les séries. C'est, comment on appelle ça, la courbe. Je me rappelle plus, il y a une courbe, on voit que c'est souvent 10% des gens qui font 80% du travail, en fait. Pardon?
Ouais, des
20%. Ouais, des 20, ouais, ça, 20%, les gens font 80% du résultat. Donc c'est un peu ça, il y a une courbe, cloche un peu, il y a 20% de scénaristes qui aiment beaucoup, etc., qu'on met sur les affiches, qu'on voit. En fait, 80%, c'est chaud, c'est galère, quoi. C'est vraiment dur, quoi. Et en moyenne, les scénaristes gagnent 90%, je crois, je sais plus les chiffres, je mets ça sur mon blog, je crois que c'est 90% des scénaristes gagnent moins de 10 000 euros par an en droit d'auteur qu'avec leur écriture. C'est la plupart des scénaristes ont un boulot à côté, comme ça. Quand on fait du cinéma, on gagne bien sa vie, il faut le dire, on a très peu de droits de diffusion, c'est compliqué, on fait ça pour l'amour de l'art, voilà, mais moi je sais que je suis hyper content de... Je gagne ma vie à moitié, on va dire, avec du coaching, plein de choses que je fais à côté. Et la moitié, c'est mes scénarios de long métrage. Et si je faisais que mes scénarios, à mon niveau de carrière, je pourrais pas vivre à Paris. Donc j'ai besoin d'avoir les deux. Voilà, et donc c'est effectivement extrêmement difficile. On passe par des phases psychologiques vraiment de doute sans arrêt, hein, comme disait Maxime. Donc c'est jamais si on va gagner. Moi j'ai 3 mois de vue devant moi sur l'argent que je gagne. Je ne sais pas du tout si dans 3-4 mois j'aurais. Maintenant je sais que je suis engagé régulièrement sur un mois à faire des trucs. C'est vraiment c'est le début qui est extrêmement difficile. Les premières années, c'est vraiment, faut vraiment s'accrocher. Je leur dis ça, je leur dis franchement, mais accrochez-vous, hein, c'est pas facile. Hein. Les premières années,
y a très peu d'entre vous qui vont venir, je pense. Mais ça va vraiment
être tout ce que c'est
vraiment le fond, voilà, c'est sur le long terme qu'on réussit.
Et puis c'est pas parce qu'on réussit tout de suite, on a une première réussite, que ça va marcher toute sa vie. Et c'est peut-être parfois encore pire parce qu'on se dit « Bon, super, ça marche, c'est génial, et non, ça marche plus après. » Et c'est pendant des années que ça galère. Et donc, il faut vraiment avoir cette espèce de truc, mais normalement, le pouvoir de fond pour pas... Mais après, c'est un gentil que ça se disait, si on a vraiment envie de faire, si on garde la petite flamme qui fait qu'on oui, la transformation, on va la rendre quand même, et on va la rendre bien. Et
bien,
la course de fond, elle est plus facile à courir.
Alors, sur le. Je vais arrêter de faire la pub pour de belles écritures, parce que je ressemble un peu à un homme sandwich, mais c'est vrai que cette question-là, on se la pose vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, non, c'est vrai qu'on a vraiment débattu, comme il s'agit de professionnaliser les jeunes auteurs, de ne pas laisser les auteurs, dès que la formation est terminée, voilà, partir. Ils restent en contact avec la avec nous. Et il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement, savoir où ils en sont, essayer de les aider dans leur professionnalisation. Pour parler d'auteurs plus aguerris, aujourd'hui, on a la chance de vivre aussi, il y a de plus en plus d'associations. Les scénaristes étaient vraiment isolés, c'est un métier où on était très isolés avant. Il y a les syndicats, il y a la GIDE, il y a le SCA, voilà, toutes ces associations, et les collectifs aussi, les collectifs de scénaristes qui sont des forces d'écriture associative qui permettent de faire des retours de lecture, comme ça des trottes de lecture avec des retours. C'est aussi les endroits où on peut parler de toutes ces problématiques réelles, concrètes. Alors il y a, après pour être un petit peu plus dans la pédagogie, moi c'est une question que je me pose souvent. L'un des adversaires les plus importants de ce métier, c'est le burn-out. Voilà. Le burn-out, alors, plus la précarité, plus le manque de reconnaissance sociale, plus des cas de figure très difficiles à défendre. Vous avez écrit 5 scénarios, mais il n'y a aucun film qui n'a été fait. Et pourtant, vous avez vécu sur ces 5 scénarios. Voilà. Donc il y a des choses qui sont très dures. Alors, le burn-out, qui est une réalité concrète qu'on rencontre vraiment dans le milieu, effectivement, de plus en plus, ou alors on en parle de plus en plus. C'est ça qu'on ne sait pas trop, s'il y en avait déjà, et on en parlait moins, maintenant on en parle, voilà. On en parle vraiment. Moi, c'est une question que je me pose en tant que formateur, c'est voilà, jusqu'où on peut préparer, est-ce qu'il y a un côté, on va les endurcir comme ça, ils seront prêts, voilà, mais on ne peut pas les laisser dans le trocon d'une formation sans tenir compte de cette difficulté. Donc il faut préparer à cette difficulté. Et en même temps, voilà, c'est ce qu'on va faire, on ne va pas tirer à balles réelles pendant les... Donc voilà, mais c'est une vraie question encore. En tout cas, ne pas cacher la réalité de ce métier-là. C'est un métier qui est dur, qui est précaire, voilà.
Oui,
pour arriver à le faire passer.
Juste dans les trucs, je pense qu'effectivement, en tant que formateur, on a une responsabilité et elle ne s'arrête pas le dernier jour de la formation. Donc tous les gens qu'on a eu en formation, à chaque groupe, on a fait un WhatsApp. Et donc on a des WhatsApp toujours. Et des gens à qui on répond encore aujourd'hui, même si on a eu en formation il y a un an, pour leur dire ok, vas-y, continue, il y a des gens qui nous disent on arrête, on a tout type, des gens qui sont contents, qui nous envoient leur truc pour dire ouais, la production de mon court-métrage, et là il n'y a pas très longtemps, des gens qui nous disent ouais, j'arrête, j'en peux plus. Et ouais, moi je trouve que oui, quand on est formateur, on a cette responsabilité-là de ne pas laisser les gens dans la nature parce que quelque part on les a. On leur a dit, allez, il y a une marche à monter, on vous aide à la passer, mais on ne peut pas après les laisser comme dans les trucs, et là, débrouillez-vous maintenant, on ne peut plus vous voir. Enfin, après, ça n'a pas de sens.
Aussi, il faut faire du sur-mesure, et voilà, il faut leur dire, c'est pas être scénariste, c'est pas juste un métier unique, il y a plusieurs manières d'être scénariste. C'est-à-dire, si tu veux vraiment faire du cinéma, ok, vas-y, moi ce que je fais, et accroche-toi, parce que tu vois, ça va être très compliqué. Tu vas pas être reconnu, ça va être dur, tu vas te battre, tu gagneras de la taille. Si tu veux gagner ta vie, pouvoir gérer ta famille plus facilement, etc., fais de l'animation. Là, t'as plein de boulot, on est un des pays les plus producteurs d'animation, là t'as du boulot. Si tu veux bien gagner ta vie, fais des quotidiennes. Par contre, on explique à chaque fois ce que ça implique. Artistiquement, on pourra pas être très libre en quotidien. Voilà. Et donc après, on explique bien tout le panel de ce qu'on peut faire, et après c'est à eux de choisir, et de réfléchir en fonction de ce qu'ils veulent vraiment, et d'aller dans une direction.
Très bien. Oui, mais je fais scénariste, j'ai deux questions. La première, c'est pour rebondir sur l'histoire des contrats. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une minorité de scénaristes qui sont représentés par des agents, ou pas mal, ou de plus en plus, ou est-ce que vous êtes représenté ou pas? Et ma deuxième question, c'est toi, Christelle, tu parlais du Pôle emploi, et tu disais, on n'a rien au Pôle emploi, et du coup, comme je sais qu'il y a une aide pour les auteurs de romans, de Pôle emploi, en fait, quand je me demandais pour les auteurs de longs métrages et de séries, il n'y a pas du tout concernant, je pensais juste une petite question. Elle est très bien.
Je sais de faire ça. Oui, moi je suis représentée par une agence qui est là.
voilà, qui est un petit titre. Et alors, savoir si beaucoup d'agents sont représentés, pas représentés, j'avoue, je n'ai aucun chiffre, je ne sais pas du tout. J'ai l'impression qu'effectivement, dès lors qu'on commence à se professionnaliser et à avoir un premier contrat, on est représenté justement pour les raisons que je disais tout à l'heure, on n'a pas très très envie de venir nos contrats, donc on laisse notre agent le faire. Globalement. Mais après, vraiment, les chiffres, je ne les ai pas.
Moi, je ne connais pas de scénariste qui n'a pas d'agent. On va avoir un agent. Moi, je ne connais pas. Et voilà. Et généralement, ça, c'est quand on se met en plein contrat, là, on trouve un agent tout de suite. Après, non ?
Là, beaucoup d'argent,
même
le premier
contrat. Mais souvent, c'est quand tu signes un premier contrat, c'est là que tu as une chose à amener à l'agent. Et il voit que tu commences. Moi, c'est comme ça que je veux. Mais après, l'agent, effectivement, tu peux. Tu as d'autres moyens. Tu peux avoir un avocat ou même la SACD. Mais bon, moi, je conseille quand même d'avoir un agent. C'est des gens qui connaissent bien, qui sont spécialisés.
Bon, c'est compliqué. Mais c'est un excellent exemple de comment la professionnalisation est complexe et difficile. Parce que oui, c'est l'une des premières étapes professionnalisantes. C'est d'arriver à avoir un agent. Comme le dit Ludo, avoir un agent, il faut avoir un projet en cours de signature. Voilà. Et même comme ça, bon, c'est pas toujours gagné. Donc la question de comment trouver un agent, comment je vais trouver un agent ? Cette question-là, déjà, il n'y a pas de vrai. Elle est complexe. Elle est complexe. Souvent, ça marche par le réseau. C'est-à-dire que c'est d'autres auteurs qui ont un agent qui parle de vous voilà, à leur agent et du coup on passe comme ça. Enfin, mais si vous démarrez, vous n'êtes pas dans le réseau encore, donc il faut commencer à faire le réseau. L'image que je donne souvent, c'est que pour rentrer dans le réseau, c'est comme vouloir rentrer dans le carré VIP d'une boîte de nuit. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui sont déjà dedans qui peuvent rentrer. Ça, c'est des questions très complexes. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas... Voilà. Mais déjà, les premières embûches arrivent là, quoi. Et oui, je pense qu'avoir un agent, c'est important. Aujourd'hui, pour des tas de raisons.
Et donc, juste très rapidement sur Pôle emploi finance des formations à l'écriture. Par contre, les auteurs ne sont pas intermittents, donc on n'a pas de chômage, on ne touche pas de chômage via Pôle emploi. Et il y a un Pôle emploi, il y a une antenne Pôle emploi qui existe à nouveau, qui existe, je ne sais plus, il est à nouveau, qui peut donner des conseils, etc. Mais effectivement, Pôle emploi n'est pas. Malheureusement, mais comme pour beaucoup de métiers d'ailleurs, on n'a pas forcément de ressources très simples à mettre en place. Voilà. Mais ils financent des formations. Nous, les nôtres, par exemple, peuvent avoir des financements pour l'emploi, sauf en ce moment, puisque tout l'argent de la formation est donné pour les Jeux Olympiques. Voilà. Mais depuis 6 mois, nous n'avons pas eu une seule formation financée par Pôle emploi. Voilà. Bonjour.
Je me permets juste sur Pôle emploi, parce que je pense qu'on lui doit beaucoup. C'est une femme qui est là sur Festival qui vient de nous dire qu'elle relançait les aides d'antenne scénariste alors que tout le monde lui a dit mais pourquoi tu t'occupes des scénaristes, ils n'ont même pas le droit de chômage. Elle s'occupait oui, d'une journaliste voilà, et parfois elle a pu organiser des sessions de pitch. Bref, qu'elle pouvait pour aider les scénaristes à trouver des jobs, des producteurs et tout. Voilà. Sachant qu'après, on lui donne moyen de l'emploi.
Sachant
qu'elle est seule.
Des
barres
et que si
vous voulez lui parler, elle
sera fière. Ouais. Et
elle a fait beaucoup quand même.
Elle a vraiment fait beaucoup.
Il y a le... Bonjour. Alors, je vais essayer de continuer maintenant. Je parle en tant que... Un coup jeune scénariste, un coup scénariste émergente, parce qu'effectivement, j'ai fait une formation alternative par rapport à ce qui existe déjà pour arriver à ce métier-là. On est cité pour trajet et basculer les scénaristes, voilà. Et ma question la suivante, c'est que je me suis rendu compte que quand on ne connaît pas ce métier, on arrive avec beaucoup d'intuition et d'envie de raconter des histoires, et que souvent, pour être concret, on se retrouve un peu cassé, soit dans notre élan, parce qu'il y a des gens défaitistes qui essaient de pédagogues, mais qui nous disent en fait que c'est pas bon, on ne va pas y arriver. C'est pas vendeur, ou que ça ne se fait pas, alors que bon, il y a quand même pas mal de changements. Et donc, ces gens-là sont consultants, plus que scénaristes, parce que vous avez dit des gens qui font ce travail. Soit, en fait, il y a ce côté aussi de, on ne sait pas trop si c'est la subjectivité qui rentre en jeu pour nous réorienter vers des choses que eux auraient fait. Parce que, effectivement, sur leur chemin, il y a des galères, et comme on dit, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, j'ai un petit peu cette, question, un peu frustration de dans les consultants et les formateurs et les profs qu'on a, certains, en fait, la pédagogie, on se penche un petit peu pour faire des heures et des heures, mais parfois, les idées, on a un petit peu tué dans l'œuf. Voilà, donc du coup, je vais parler avec vous de votre manière de faire de la consultance avec, finalement, bien rien, pour accompagner les gens qui veulent rester dans le milieu, parce qu'effectivement, le financier est très, très, très dur. Oui.
Moi, je peux répondre en deux mots. Quelqu'un qui vous dit, moi, j'en ai fait comme ça, vous l'écoutez pas. C'est pas son film, c'est le vôtre que vous êtes en formation pour développer le vôtre de film. Vos idées, votre propos. Moi, je suis pas dans votre peau, j'ai pas vécu ce que vous avez vécu. Votre rapport, c'est le vôtre. Alors après, vous pouvez écouter, attention, d'un point de vue dramaturgie, ça tient pas, il faut du conflit, il faut ceci, il faut cela. Ça, c'est des choses qui ont changé, c'est ce qu'on disait, c'est les manuels, c'est l'apport sur la dramaturgie, ça, faut l'écouter. Par contre, quelqu'un qui me dit, ah non, mais moi, j'aurais pas fait ça comme ça, j'ai vraiment, mais ça va pas. C'est un exemple, j'ai une formation un jour, le premier jour de formation, le formateur me dit, ah, c'est de la merde, tu iras jamais au bout. Est-ce que j'ai envie d'aller suivre les 10 autres sessions? Pas franchement. Pas franchement. Est-ce que cette formation m'a apporté quelque chose? C'était une résidence d'ailleurs. Elle m'a apporté qu'elle était très très bien sous le soleil et que j'ai profité de 15 jours super. Mais je n'ai pas travaillé sur mon scénario. Donc à un moment, ça, si quelqu'un vous fait ce genre de choses, et d'où l'importance de googler les gens, d'où l'importance de savoir qui vous parle, d'où vient cette sentence. Et à un moment, on se dit, bah, je m'en fous, en fait, je ne vais pas ce que j'ai envie de faire. Par contre, il faut aussi faire attention à ne pas être trop têtu, c'est un marché. Les choses doivent avancer sur un marché. Et ça, à un moment, il faut aussi l'entendre.
Plusieurs choses. Alors moi, je sais que quand je suis consultant, mon éthique de consultant, c'est justement, je ne crie pas. Je renvoie la balle. C'est pas mon projet. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que je sais que je peux faire des voyages qui vont, voilà, dans lesquels je serais peut-être même pas bon à l'écriture. Donc, je renvoie la balle. C'est pas moi qui ai le final set. Je peux avoir des convictions, essayer de les défendre. Mais au bout du compte, c'est pas moi qui écris. Voilà. Je trouve étrange quand on est consultant d'asséner quelque chose comme ça. Ça m'est arrivé comme auteur d'avoir affaire à des consultants comme ça. Il y a aussi un barème d'autorité. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, écris ça comme ça, tu devrais écrire comme ça. Si tu n'écris pas comme ça, c'est pas bon. Il y a la question de quelle autorité parle cette personne. Si c'est un prof, si c'est un coach, un consultant, ouais, comme dit Christelle, ne l'écoutez pas. Si c'est un producteur, un diffuseur, ça devient un peu plus compliqué. Alors après, je tire le fil aussi d'un truc qui est quelque chose de très important dans le métier de scénariste, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans les formations, parce qu'en parlant d'écriture, c'est quelque chose qu'on peut oublier. La gestion des retours est l'une des choses les plus complexes, les plus difficiles et les plus sensibles. Vous mettez tout votre cœur, vous écrivez un truc, vous êtes vraiment allé au bout, et vous avez des retours, il va falloir réécrire, et vous avez des choses qui font mal. Et apprendre à recevoir des retours, apprendre à voilà, digérer ça, alors après il y a la sensibilité de chacun, mais réussir à faire un travail là-dessus, on ne peut pas dire oui à tout, on n'est pas des paillassons, mais on ne peut pas non plus dire non à tout, on n'est pas à Kubrick. Il faut aussi, voilà, il faut aussi accepter vous. C'est un travail qui est très complexe. Et c'est vrai qu'arriver à développer au moins de façon empirique, justement le fait d'avoir des projets cobayes, permet de travailler là-dessus. Mais la gestion des retours est une des choses les plus importantes. Quand on parle de dramaturgie, on oublie cet aspect-là. Mais la gestion des retours est l'une des choses les plus difficiles. Dernière chose, parce qu'il nous semble que c'est quelque part aussi dans la question, c'est une chose très importante. Quelquefois, on perd un peu la niaque, l'esprit. Voilà, on est cassé, comme vous avez dit. Moi, il y a une chose qui me semble très importante, c'est il y a un moment, c'est juste qu'on écrit, où on est un peu sous les retours, on ne sait plus si ça nous appartient, ça ne nous appartient plus, enfin voilà. Moi, je recommande toujours de garder pour soi un territoire d'écriture à soi, toujours, écrire pour soi quelque part. Ce ne sera pas toujours suffisant, mais c'est au moins une thérapie de base, ça ne marchera peut-être pas pour tout le monde ou pour vous. Mais c'est vrai que des fois, entre les retours, la façon dont les projets bougent, même si c'est 10 minutes le matin, même si c'est un journal intime, même si vous êtes en train d'écrire la recherche du temps perdu, ou un traité de philosophie, votre jour, tout ce que vous voulez, de la poésie, mais écrivez des choses qui sont à vous, qui vous appartiennent, que vous ayez cet espace-là, si ce n'est pas quotidiennement, au moins de façon hebdomadaire, pour que vous ayez un espace où vous retrouviez régulièrement cette relation organique que vous aviez à l'écriture c'est la raison pour laquelle vous avez choisi cette voie-là. Il ne faut pas la perdre.
Moi, j'ai un conseil, fuyez les gens toxiques. Parce que je l'ai pas mis en pratique assez tôt et j'ai eu des mauvaises expériences, notamment des gens qui ont plus de pouvoir que vous, et en fait qui abusent. Alors vous dites, ouais, c'est un réel connu, pas de problème, j'accepte. Et en fait, vous rendez compte, c'est toxique, au final, vous faites avoir, et terminer triste, et ça va pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer d'aller plutôt vers des gens de votre niveau, des amis, des gens des plus jeunes producteurs, et c'est avec ces gens-là que vous devez monter tous ensemble. Tout votre réseau doit monter ensemble. Moi, ce que j'ai fait, au début, je suis essayé de travailler avec des bons réalisateurs, ça marchait pas, je me faisais manipuler, enfin, c'est très mauvais. Et voilà, donc méfiez-vous des gens un peu pour du pouvoir et qui vous assènent des vérités, qui essaient de passer un peu en bulldozer, de vous écraser un peu. Fuyez.
En tout cas, pour faire un retour, si je vais être trop bien, quelqu'un qui dit c'est de la merde, déjà, c'est pas...
Sincèrement, c'est quelque chose qui se passe dans n'importe quelle métier.
C'est une question de respect tout court. Tu vas pas dire le matin à ton boulanger, même si c'est pas ta métier, enfin, tu retournes pas, ou tu n'y retournes pas, ou voilà, mais à un moment...
Ce qui est difficile quand on est scénariste, c'est qu'on a besoin de validation. On doute beaucoup. Les scénaristes doutent sans arrêt. On a besoin d'être validé. Dès qu'il y a une autorité qui nous dit qu'il nous valide, ça fait plaisir. On se sent emporté. Et si les gens nous cassent, ça peut nous détruire.
Donc surtout, si quelqu'un vous dit c'est nul ce que tu fais, vous faites un petit sourire, puis hop, vous barrez. Salut, ciao. Vous barrez. Vous avez bossé avec vos potes et vous faites vos trucs ensemble. Et après, il faut que la qualité des projets, et que votre énergie passe dans le projet. Et puis au bout d'un moment, c'est sur le temps. Si vous tenez assez longtemps, au bout d'un moment, ça marche. C'est sûr. Moi, j'étais comme vous au début, mais j'avais aucun contact. Et j'ai tenu, et au bout, effectivement, 5-6 ans, j'ai un film qui se fait. Mais il faut tenir, en fait, c'est ça qui est dur, c'est de tenir.
Question.
Bonjour.
Bonjour,
c'est Rich. Scénariste apprenant et... en fait, j'ai deux petites questions. Une qui est plus une question de conseil.
Une qui est plus un conseil que vous pourriez donner. Et une autre, vous pourriez parler vraiment directement du métier de constructeur qui m'intéresse beaucoup.
Donc la première, en fait, j'ai toujours la crainte de voir une surproduction de création artistique et donc une espèce de moment où ça déraille et on n'est plus capable de comprendre vraiment la thématique d'un projet et à quel point un projet est important. À quel point même un téléfilm a une importance fondamentale parce qu'elle va être regardée pendant une heure et demie par des milliers de personnes. Donc elle a une importance fondamentale dans sa thématique et perdre de vue en fait ce qu'on a à dire ou ce qu'on a en tête. Et je voulais savoir si vous avez un petit conseil quand on travaille beaucoup de projets, comme vous avez pu la mentionner, c'est être scénariste et travailler sur parfois une douzaine de scénarios dans l'année, 12 scénarios dans l'année, c'est énorme. Et donc devoir contrôler tout ça dans sa tête en ayant 12 éventuelles thématiques différentes dans la tête, c'est quand même quelque chose de dingue. Et par an en plus. Et, est-ce que vous avez quelque chose, peut-être de concevoir son propre journal, mais quelque chose, un tip pour ne pas perdre de vue ce qu'on a vraiment en fait avec ces...
Je pense qu'avec l'habitude aussi c'est de la gymnastique. Quand on écrit un projet, on sait pourquoi on écrit au départ, mais normalement, après les projets, les commandes, les choses qu'on écrit, il faut aussi manger tout bêtement, et on n'a pas forcément, on n'est pas le même chose bon, mais quand on écrit un projet, je sais toujours ce que je vais écrire, j'ai appris des trucs très bêtes. Chaque projet, tu peux les mettre en mots-clés. Tu vois, la thématique, ce dont je veux parler dans ce jeu-là, c'est le mensonge, c'est le secret de famille. Et quand tu vas ouvrir ta boîte à projet, ton mot-clé va sortir, et quand tu vas relire, tu vas dire « Ah, tiens, j'ai oublié que je parlais du secret de famille, donc je vais réinjecter. » Mais ça, c'est presque propre à chacun. Et t'inquiète pas, je pense que si t'as vraiment quelque chose à dire, tu le perdras pas, franchement. Ça va pas disparaître comme ça. Mais c'est ça qui se fait en même temps.
Quand tu pars, c'est vraiment le cœur du métier. Être scénariste, c'est pas ajouter des mots sur une page et remplir des centaines de pages. Non, c'est enlever des mots enlever des choses jusqu'à temps qu'il reste vraiment ce que tu veux raconter. Donc on lutte sans arrêt pour trouver ce qu'on veut raconter. Qu'est-ce que je veux raconter? C'est l'horreur, mais tout le temps. Et sur tous mes projets, je me perds complètement. C'est horrible. Mais on doit trouver. C'est comme une image de statue, c'est pas rajouter de la terre pour boucher les trous. Non, il faut enlever de la terre jusqu'à temps que la forme apparaisse, quoi.
Donc moi, ce que je fais, c'est que je me mets de côté l'écriture. Parce que je me fais un diatrope. Et surtout, je vais voir un ami scénariste et on parle. Et je lui raconte l'histoire à l'oral. Et on en parle. Et en fait, c'est comme ça que l'histoire vient. C'est avec l'oralité. C'est que tu arrives à choper l'histoire. Il y a des images qui arrivent et tu ne perds pas dans les détails, etc. Tu racontes l'histoire. Il faut pouvoir. Si tu arrives à raconter ton histoire en 5 minutes, même moins, hein, ça se met en place. Moi, souvent, c'est, je suis complètement bloqué, donc j'arrête de travailler. Je vais me voir du coup avec des potes et un peu bourreux autour de l'air, je raconte mon histoire. Puis, et c'est ça, en fait, l'histoire. Et je la trouve comme ça, dans un moment d'intuition comme ça. Il y a un moment, il faut arrêter de couper les cheveux en quatre sur sa feuille, etc. Prendre un peu de recul et surtout pas écrire seul. Alors, vraiment, moi, ce qui m'a permis de devenir scénariste, c'est le jour où j'ai arrêté d'écrire seul. Je me perdais, c'était horrible, c'est trop dur, je faisais des trucs de 150 pages, j'arrivais pas à couper. Alors qu'à deux, ça soulage, ça enlève quoi, un poids de la création, ça permet d'avoir de la réflexivité, et voilà.
Très vite, je dis toujours très vite, puis je suis long. C'est pareil, il y a plusieurs petites choses. Sur le multitâche, oui, ça fait partie du boulot. Moi, je compare ça souvent à la cuisine. On fait un plat un peu complexe ou quoi. Alors, il y a la sauce qui est en préparation pendant qu'il y a le truc dans le four. Et puis après, on va mettre le truc par-dessus, etc. Il y a des moments où ça va très vite, il y a des moments où ça va plus lentement, etc. Effectivement, pour vivre, les scénaristes travaillent sur plusieurs projets. Alors, il y a les deux familles. Il y a ceux qui aident se disperser parce que dans une journée, de sauter d'un projet à un autre, ça aide. Voilà, parce qu'on... Et qui vont avoir plus de mal dans la concentration sur un seul projet, et inversement, ceux qui aiment bien faire des bonnes plongées sur un projet à la fois et qui sont malheureux, qui sont obligés de couper un peu leur... Il faut se chercher, là, c'est pareil, il faut s'interroger, il faut se chercher, mais de toute façon, même si on est sur un seul projet, on va travailler sur plein de chantiers en même temps. Moi, je déteste la métaphore de la maison qui se construit, on dit on va commencer par les fondations, etc. C'est pas vrai. On fait un peu de structure, et puis on va sur un personnage, et puis on revient sur la structure, et puis on va travailler. On fait un bout de plomberie, un peu de papier peint, un peu de machin. Elle se construit comme ça, la maison. C'est n'importe quoi, c'est sûr. Et ça fait partie à la fois de la joie et du stress du travail. Donc il faut apprendre ce côté multitâche. Bah oui, il faut faire des trucs différents avec les deux mains qu'on a. L'autre truc, c'était quoi? C'était sur... Voilà, oui, comment revenir au cœur du projet? Alors moi, je crois que de toute façon, cette problématique, elle arrive tout le temps. C'est-à-dire que forcément, on sait sur quoi on va travailler, qu'on soit seul, qu'on soit à plusieurs, il y a un moment, bah, on rentre dans le scène à scène, voilà, on rentre dans les motifs du tapis, et on ne voit plus le tapis de haut. Et donc voilà, le personnage, on passe d'une scène à une autre, etc. Et c'est vrai qu'il y a toujours, moi je le vois toujours, il y a toujours un moment, c'est, mais attendez, de quoi on parle? Et souvent, il y a ce moment de revenir en arrière, se rappeler c'était quoi, la petite graine originale, etc. Ludo a très très bien répondu, je trouve que c'est vraiment très précieux, le pitch. Le pitch, on en parle vraiment comme un outil marketing, ça n'est pas que ça. Et si c'est un outil marketing qui marche aussi bien que ça, c'est parce que ça n'est pas que ça. Se pitcher le projet, se le raconter en très peu de temps, le raconter avec des potes, voilà. Revenir à l'oral et sur une formule courte, c'est le meilleur exercice pour essayer de revenir au cœur du projet. Et je trouve que c'est vraiment très précieux ce que Ludo met en lumière. Pour moi, c'est vraiment, concrètement, l'exercice le plus important. Apprendre à repitcher et vraiment apprendre à dissocier. Le pitch n'est pas qu'un outil de marketing, c'est un outil d'écriture aussi. Il faut y revenir tout le temps, justement pour retrouver cette étincelle.
La formation où on pitch tous les matins. Tous les matins, on commence par un tour de pitch. Ou dans l'après-midi, par des fois, pour surprendre un peu les stagiaires, on va dire de pitcher à cette étape. Mais vraiment, l'idée, c'est de redire, et on finit par trouver comme ça aussi. Même dans la construction, ça aide de pitch. C'est pas qu'à la fin, c'est vraiment un truc hyper important.
Eh bien, on fera une table ronde sur le pitch l'année prochaine. Je renvoie vers toute la fin pour les métiers de consultant, parce que c'est revenu plusieurs fois, un très bon livre blanc rédigé par Laetitia Kugler qui résume très bien le métier. C'est intéressant à tous les niveaux. Et moi, Ludo, je suis désolé, j'ai décroché, j'ai juste retenu qu'il fallait boire à plusieurs pour écrire, donc je vais aller faire ça tout de suite. Merci beaucoup.